Bienvenue au fil du temps, le balado. Je m'appelle Christine Groulx, je suis psychologue, neuropsychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Aujourd'hui, je reçois le nonagénaire Jean Bernacchese et la neuropsychologue Isabelle Rouleau. Jean, pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de vie?
Moi, je suis né à Montréal, j'ai travaillé toute ma vie, et puis à 49 ans, j'ai décidé de me prendre en main. Alors, j'ai commencé à faire de l'exercice pour perdre du poids et puis me mettre en forme. Puis aujourd'hui, bien, je suis en meilleure forme.
Qu'est-ce qui vous avait amené là? Qu'est-ce qui vous a amené à vous prendre en main?
C'est mon médecin qui m'avait dit que je commençais à faire de la pression. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire sans prendre de pilules. Il m'a dit, bien, si tu perds un peu de poids, ça va aller. Alors, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un saut. J'ai commencé à m'entraîner. Et c'est là, plus que je perdais du poids, j'ai vu que j'étais en meilleure forme et j'ai continué. Puis aujourd'hui, je suis en pleine forme.
Avec plusieurs marathons à votre actif.
Plusieurs marathons. J'ai commencé, j'ai fait un premier marathon en 82. Et puis, j'en ai fait 6. Puis après ça, j'ai fait des demi-marathons. J'en ai fait au moins pas loin d'une vingtaine. Puis aujourd'hui, c'est surtout du 5 km. Et puis, ça continue, puis c'est merveilleux. Je suis en pleine forme.
En tout cas, vous avez l'air d'être dans une forme splendide. Merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Isabelle Rouleau, vous êtes neuropsychologue, professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, directrice de ce même département aussi, et spécialiste en vieillissement. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours?
Alors, moi, j'ai un parcours de clinicienne. Comme vous savez, au départ de ma vie, je travaillais à l'hôpital Notre-Dame, qui est maintenant le CHUM. Et donc, j'ai travaillé beaucoup dans les pathologies du vieillissement. Et évidemment, c'est difficile de travailler dans les pathologies si on ne connaît pas le vieillissement normal. Et donc, je me suis beaucoup intéressée au vieillissement normal et aux façons de se garder en forme quand on vieillit.
J'aimerais ça que vous nous en parliez du vieillissement normal. C'est quoi vieillir normalement, passer 60, 70, 80 ans? 90? c'est quoi ça. Vieillir normalement?
Bien, vieillir normalement, c'est d'abord, je pense, se garder actif sur le plan physique et sur le plan intellectuel, hein, sur le plan cognitif. Ce qu'on remarque beaucoup dans le vieillissement normal, c'est que les gens sont très différents. On ne vieillit pas tous de la même façon. Mmh. Quand on regarde des gens dans la vingtaine ou la trentaine, sur le plan cognitif, physique, ils se ressemblent pas mal. Mais plus on avance en âge, plus on est différent, hein, plus il y a des écarts. Ça veut dire que dans tout ça, il y a des gens qui vieillissent mieux que d'autres. Il y a des facteurs génétiques, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais il y a des choses qu'on peut changer, et puis votre autre invité vient de nous le dire, c'est qu'à 49 ans, lui a pris une décision. Et cette décision-là a sûrement changé complètement le décours de sa vie.
Définitivement. Puis, qu'est-ce qui permet de lever le drapeau quand les gens s'inquiètent d'un vieillissement pathologique? Qu'est-ce qui va caractériser le vieillissement pathologique?
Bien, au départ, je pense que les gens sont très, très, très attentifs au fait qu'ils ont des troubles de mémoire. Je pense que la mémoire, ça, c'est la plainte numéro un. Bon, moi, je fais quand même pas mal de cliniques aussi. J'en ai fait beaucoup, moins maintenant. Mais c'est vraiment ce qui fait que les gens viennent dans nos bureaux. Autant c'est des troubles d'attention chez les enfants, autant c'est des troubles de mémoire chez les personnes âgées. Donc, il y a des oublis qui sont normaux et il y a des oublis qu'on pourrait qualifier d'anormaux. Et nous, effectivement, on doit faire la part des choses. Une grande partie des oublis normaux chez la personne âgée, puis tout le monde peut faire un peu d'introspection, c'est le niveau d'attention qu'on porte aux choses. Est-ce que même si je porte attention, même si je fais des relations avec ce que je sais déjà, même en dépit de tout ça, j'arrive pas à me souvenir des choses, pour moi, ça, c'est un drapeau rouge. Mm-hmm. Parce qu'en général, dans le vieillissement normal, habituel, les gens deviennent un petit peu paresseux dans le traitement qu'ils font de l'information. Ils ont toutes sortes d'informations, puis ils oublient de bien la caractériser, bien la classer. Et ce qu'on fait, nous, en clinique, c'est qu'on départage ça. Et on fait beaucoup de psychoéducation avec nos personnes un peu anxieuses qui viennent nous voir en disant « Regardez, je vous ai mis dans telle condition, puis votre mémoire, elle fonctionnait bien. »
Oui. Ça, c'est caractéristique des anxieux. Hein. Ils arrivent en ayant l'impression qu'ils ont des problèmes, puis finalement, ils n'en ont pas nécessairement, mais ils ont tellement peur d'en avoir que...
Et ça augmente avec le temps, parce que l'anxiété fait une hypervigilance par rapport aux problèmes. Un manque du mot, hein? On appelle ça un manque du mot, c'est la difficulté à trouver c'est quoi le nom de cet acteur, c'est quoi le nom... Tout le monde a ça. Mais quand on se met à y penser et à se rappeler, parce que ça, ils s'en rappellent, de chacune des fois où on a oublié le nom de quelque chose, bien, ça augmente le niveau d'anxiété, puis ça augmente aussi l'émergence de ce phénomène-là. Mm-hmm. Hein, donc, on vient...
Puis en dehors des problèmes de mémoire, tu sais, on parle du manque du mot, chercher ses mots, hein, pas trouver les mots, faire des détours pour essayer de nommer la chose qu'on voit, les oublis des phénomènes récents. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on observe le plus?
Dans le vieillissement normal, une augmentation de la rigidité, le manque de flexibilité, la difficulté à trouver des solutions variées pour un même problème, de trouver donc un trajet alternatif pour résoudre nos problèmes. Ça, c'est assez évident. Des fois, un petit manque d'inhibition aussi par rapport à des choses qu'on va dire « Oups, c'est sorti trop vite ». Donc, c'est un ensemble de fonctions, d'organisation, de planification, de flexibilité. On sait que dans le cerveau, les structures les premières à vieillir, c'est vieillir entre guillemets, c'est les lobes frontaux. Mm-hmm. Et les lobes frontaux sont là, c'est un grand chef d'orchestre qui sert à dire « Oups, attends un peu, c'est pas le temps de dire ça. Oups, organise ton affaire, tu vas voir, ça va mieux aller. » Et ces lobes frontaux-là ont tendance à vieillir un petit peu plus rapidement que les autres régions, ce qui fait que tout ce qui est fonction plus exécutive, donc planification, flexibilité, inhibition sont plus touchés dans le vieillissement, même dans le vieillissement normal.
Puis pour les gens qui nous écoutent, hein, les lobes frontaux, c'est la partie antérieure du cerveau, c'est ce qui se développe le plus tardivement chez les jeunes avec la maturation, puis c'est ce qui s'effrite le plus rapidement aussi parce que ce sont des fonctions qui sont vraiment très évoluées. Monsieur Bernacaise, vous, qu'est-ce que vous avez observé dans votre vieillissement? Parce que vous vieillissez en pleine forme. Fait que c'est quoi les signes de vieillissement que vous voyez chez vous?
C'est comme normal que je ralentis un peu, mais en gardant l'activité physique, je crois que ça va retarder beaucoup. Et puis moi, je prétends que ma forme, c'est parce que c'est ce que je fais, l'activité physique. Mm-hmm. Parce que moi, chaque matin, c'est sûr que je peux me lever, je suis un petit peu raqué, mais tout de suite, je fais un peu d'exercice, puis je prends une bonne douche chaude, puis ça replace, surtout comme le dos. Puis je prétends que moi, ce qui me garde en forme, c'est de bien manger, ma pensée aussi, parce que je suis très positif, et puis le physique, faire de la culture physique tous les jours. C'est pas nécessaire d'en faire pour se fatiguer, mais juste en faire assez.
Ça, c'est les facteurs qu'on peut influencer, hein, parce qu'on ne peut pas changer notre constitution, notre génétique, mais nos habitudes de vie, oui. Mais racontez-nous donc un peu ce que vous faites comme activité physique chaque jour.
Chaque jour, pour commencer, je vais vous dire, le matin, en me levant, d'abord, je prends ma douche, comme j'ai dit, je fais un petit peu d'exercice pour me mettre à me réveiller. Puis je prends ma douche chaude le matin, ça me replace. Là, je m'en vais déjeuner, puis une heure et demie après, je fais de l'exercice. Je commence à faire des abdominaux. Mon premier exercice, c'est abdominaux pour le dos. Puis je fais des exercices différents, puis je fais avec des poids aussi. J'ai des 10 livres, des 15 livres. Je fais à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Puis ça me remet sur le piton. Puis, comme on dit en français, sur le piton. Et puis après ça, je vais aller prendre ma marche. Je fais au moins 4 fois par semaine, je fais une marche rapide. Je fais un 5 km et puis je me sens en très bonne forme toute la journée.
Je disais à M. Bernacaise qu'il fait la même chose que moi, mais moi j'ai hâte de voir ce que je vais faire quand je vais avoir son âge. Puis si je vous posais la question, c'est quoi est-ce que vous voyez des avantages à vieillir?
Oui, bien si tu veillais en forme. Mm-hmm. Quand tu viens en forme, j'ai des avantages parce que tu sais tellement de choses, tu apprends tellement d'affaires, puis c'est plus facile. Tu sais, des fois, tu vois des choses, mais tu les as passées, tu les as vues, les choses, tu vois. Puis la vie est belle. T'as pris de l'expérience, t'as vu, ça, moi, je trouve que la vie est tellement belle. Quand tu peux faire ce que tu veux à un certain âge, là, mm-hmm. c'est plus facile, parce que t'as passé à travers de bien des choses.
C'est ça qui rend les choses plus faciles. Puis voyez-vous des inconvénients?
J'en vois pas les inconvénients normal. Là, t'as des petits bobos, mais quand tu t'arranges pour les... ça se règle. Mais j'ai trouvé aussi que quand t'es en... si t'as des petits bobos, il m'est arrivé des bad luck. Moi, j'ai un pacemaker depuis 15 ans. Mm-hmm. Ça m'a pas dérangé parce que j'étais en forme, puis j'étais positif. Puis j'ai continué à faire ma vie. J'ai pris des... j'ai eu des chutes, mais vu que j'étais en état physique, je m'ai jamais brisé d'os. J'ai jamais eu de cassure.
Fait que dans vos activités physiques puis dans vos activités quotidiennes, le vieillissement actuellement vous gêne pas du tout? Là.
Non, moi, je pense pas à l'âge. Pas du tout.
Dans votre vie sociale, dans vos relations?
Ma relation, ça va très bien. En plus, quand t'es en forme, ça va très bien. Moi, j'ai ma blonde qui... Les choses vont très bien.
La vie est belle pour elle aussi.
Oui, même en vieillissant, tout va bien grâce à la forme physique encore.
Isabelle, on a entendu Jean, mais selon vous, les meilleurs moyens de bien vieillir ou en tout cas d'être capable d'influencer positivement notre vieillissement?
Ben, je pense que on a un exemple.
Un bel exemple.
Ouais, c'est sûr aussi c'est graduel, hein. Je pense que il faut pas se fixer non plus des objectifs trop élevés parce que je connais certaines personnes qui vont écouter notre balado qui vont dire, oh, ben, moi, je serai jamais capable de faire ce que lui fait parce que je suis pas. Ah. Mais il faut commencer quelque part. Ouais. Et aussi, chaque petite pas, c'est une victoire. Puis faut vraiment avoir ces victoires-là pour aller plus loin. Donc, et puis c'est facile de s'entraîner de façon très régulière, mais sans non plus viser le marathon. Là, je pense qu'il y a plein de gens qui pourront pas courir un marathon, mais c'est pas très grave parce que l'important c'est aussi d'avoir des objectifs qui sont réalisables, mm-hmm. réalistes et réalisables. Parce que on sait, hein, vous êtes psychologue comme moi. Parsemer sa vie d'objectifs non réalisables, ça fait pas des enfants forts, ça non
c'est
plus.
C'est très démotivant, c'est très mauvais pour l'estime personnelle.
Exactement.
Mais toute personne, même si on n'a pas le style de vie de M. Bernacchese, pourrait aspirer à être plus actif physiquement, à bien s'alimenter, à rester stimulé aussi cognitivement. J'aimerais ça que vous nous parliez de ça.
Oui, exactement. Dans l'ensemble des facteurs de risque, hein, il y en a qui sont très physiologiques. On parle de toutes les maladies vasculaires, hein, hypertension, diabète et compagnie. Mais c'est sûr qu'il y a tout un pan aussi où c'est la stimulation cognitive qui est importante de se maintenir intéressé par ce qui se passe autour de nous, puis aussi en discuter avec des gens. Parce que ce qu'on a observé un peu pendant la pandémie, ça et puis chez les personnes âgées qui vivaient seules, ça a été particulièrement évident, c'est qu'il manquait de discussion avec des proches. Puis quand on discute avec des proches de choses qu'on lit ou qu'on voit à la télé, peu importe, même District 31 hier soir, quand on discute de ces choses-là, ça nous oblige à organiser notre pensée. Et cette organisation-là de notre pensée est fondamentale pour un vieillissement sain. Parce que toutes ces fonctions-là sont stimulantes. Hein? Ça nous oblige à organiser, puis ça nous oblige à aussi recevoir de l'autre des arguments, hein, auxquels on n'avait pas nécessairement pensé, qui s'intègrent, auxquels on doit réfléchir et redonner une réponse. Donc ça, le contact social est super important. Donc, il y a un ensemble d'activités, quand on parle d'activités stimulantes cognitivement, il y a des choses comme faire des casse-têtes, des mots croisés, peu importe, tout l'ensemble des activités. L'important dans les activités, c'est qu'elles vous plaisent. Hein, on fait pas ça à reculons. Non. Qu'elles vous plaisent, hein, c'est fondamental, et qu'elles vous posent des défis. C'est-à-dire que si on fait toujours la même chose chaque jour, on va être bien bon pour faire cette chose-là, mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va développer des nouvelles connexions cérébrales. C'est vraiment d'aller plus loin, de se poser des problèmes auxquels on n'a pas de réponse, puis on essaie de le trouver. Si on fait des casse-têtes à 25 morceaux, ça ne nous aidera pas beaucoup. Mais si on commence, puis hop, 500, wow, ça commence à être compliqué, puis on monte tranquillement, bien là, ça nous pose des défis. Idem pour lire. Lire des romans ou des articles de revue ou des choses comme ça, c'est très stimulant de lire, surtout si on prend attention, on fait attention à ce qu'on lit, puis on essaie justement d'en parler à quelqu'un d'autre. Je reviens souvent là-dessus, parler aux autres, parce que on est l'être humain est quand même grégaire, hein? Il aime bien parler aux autres, puis on sait que l'isolement social est un des grands facteurs de risque des troubles cognitifs chez les personnes âgées. Et donc, le fait d'avoir des relations, c'est très important. Puis dans le temps de la pandémie, ça a été un gros problème, parce que dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD, ils ont tout fermé, les salles à dîner. Et les salles à dîner étaient l'endroit où les gens avaient le plus de relations sociales pour des conversations insignifiantes. Des petites conversations qui, on dirait, qui servent à rien, mais qui sont fondamentales.
Pourtant, qui servent pourtant beaucoup, beaucoup de fin. Hein?
Exactement. Et c'est ça qui est disparu.
Puis ce que vous dites, Isabelle, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. C'est-à-dire, ça peut être une pièce de musique qu'on joue au piano, puis on va se donner un petit défi. Mais l'important, c'est vraiment que ça soit le fun, que ça soit intéressant, puis d'y aller progressivement aussi dans les défis qu'on se donne pour qu'ils restent réalistes. Puis ces défis-là, ben ils doivent être autant intellectuels que physiques, hein, parce qu'on ne marche pas tous 5 kilomètres par jour, plusieurs fois semaine, mais on peut commencer par en marcher la moitié d'un. Ou à tout le moins, pour ceux qui sont moins mobiles, donc juste de faire de l'activité physique.
Comme moi, j'ai la chance, j'aime à cuisiner. C'est parce que je suis toujours occupé, puis je fais toutes mes choses. Il y a des personnes, les hommes, ils font rien. Moi, pour mon ménage, j'ai pas besoin de personne, disons, pour me servir. Je suis un gars qui aime mieux servir. C'est parce que je suis très occupé.
Puis la cuisine, c'est génial. La cuisine, là, c'est tellement compliqué. Il faut planifier. Il faut que ça arrive en même temps, autant que possible. On ne veut pas que le truc soit froid alors que l'autre est chaud. Donc, ça demande beaucoup de planification, beaucoup de mémoire, beaucoup d'organisation. Oui. Donc, c'est une des activités qui est super stimulante. Hein. On n'a pas besoin de faire des choses complexes.
Les trucs, on peut changer. Comme moi, je fais ma blonde a dit « je fais les meilleures sauces ». Je les invente, mes sauces.
Mais c'est vrai que ça demande de l'organisation. D'abord, juste planifier que vous avez déjà les ingrédients. Vous organisez pour la faire, pour que ce soit chaud en même temps que ce que vous accompagnez dans la sauce. Mais M. Bernacchès me disait qu'il fait tous ses repas, sauf une fois par mois, où il va au restaurant.
Il y a des temps, je faisais mon pain. J'aime cuisiner, c'est mon relax. Des fois, je pouvais arriver après une compétition, puis faire de la cuisine, ça me relaxe.
Si vous aviez un conseil à donner aux personnes vieillissantes, là, si vous pouviez vous adresser à eux, quel conseil vous leur donneriez pour trouver la vie belle comme vous la trouvez belle?
En partant, faut que la forme physique, il faut que les gens bougent, qu'ils fassent n'importe quoi. Pas nécessairement faire ce que je fais exactement moi, mais bouger. Parce que si tu ne bouges pas, tu es assis devant la télévision, puis c'est pas long. Parce que ton corps, on est plein de muscles, il faut que ça bouge. C'est ça que je me dis.
C'est le meilleur conseil que vous pouvez leur donner. Ouais, en avez-vous
d'autres?
Oui, donner
ça peut être positif dans la vie. Il y a des belles choses dans la vie. Mm-hmm. Pas rester. Il y a beaucoup de négatifs qui se passent, mais pas garder ça pour eux-mêmes. Il faut qu'ils pensent à continuer à vivre puis à bouger.
Puis à essayer de voir les belles choses aussi.
Pas les belles choses. Rencontrer du monde gentil.
La forme physique, là, elle permet de voir des belles choses. C'est ça. C'est que c'est lié, ces choses-là, ensemble. Si on est plus en forme physiquement, on a moins de douleurs. Parce qu'on sait que à part l'isolement social, les douleurs, c'est majeur dans le vieillissement, parce que vous en connaissez sûrement des amis, tout ça, qui ont des douleurs très importantes dans le dos.
Ça déprime, les douleurs.
Et ça bousille complètement le plaisir qu'on a à faire des choses. Donc, tout ça fait un cercle vicieux, parce qu'à un moment donné, tu t'arrêtes de bouger, tu as plus de douleurs, bien, tu bouges moins parce que tu as des douleurs, et puis plus ça va, plus tu fais rien, et tu as encore plus de difficultés à aimer, à avoir du plaisir à faire des choses, puisque tes douleurs sont toujours derrière toi, en train de te rappeler que ça va pas bien. Et donc ça, c'est super important. Donc la forme physique en soi, Et de donner déjà une longueur d'avance pour ça pouvoir profiter.
Pour moi, voir, je regarde, c'est pour voir la vie positive. Ben oui. Ça vous empêche de vous isoler aussi, parce que vous pouvez aller voir des gens, vous pouvez vous déplacer, c'est pouvez aller faire vos courses, vous pouvez échanger avec des gens à l'épicerie ou n'importe où dans un café, chez vos amis.
C'est ça. Ça, comme ça, tu t'ennuies pas. Puis... Mais il y a une chose, quand les gens, je pourrais dire aussi aux jeunes qui s'entraînent, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'entraînement, de ne pas dépasser ses limites. Une personne qui fait... comme beaucoup, j'ai vu des gens, moi, dans les courses, là, trop faire de choses, tomber, se rendre malade. Pas dépasser ses limites. S'entraîner pour faire une compétition. Ça, je remarque ça souvent. Il y en a qui en font trop. Faut pas dépasser ses limites. L'entraînement, après ça, tu fais ta compétition.
Trop, c'est comme passé.
Puis
si on ne respecte pas les limites, on va se blesser.
On se blesse.
Puis là, on va se retrouver effectivement contraint à l'inactivité par la force des choses.
Oui.
Donc, ça, c'est important.
Mais on n'a pas ça en cognition.
Trop,
c'est pas comme ça, pas assez.
C'est intéressant,
mais non,
ça.
Mais non, parce qu'il n'y a rien qui t'empêche de lire plus de romans, d'écouter plus de pièces de musique, de t'intéresser à plus de choses, à part une overdose des nouvelles là, qu'on peut avoir, surtout de cet ancien moment
On ne peut
donné.
Pas être trop stimulé
Mais on
ne
peut
là,
pas être trop stimulé cognitivement, non.
Mais il faut dormir, par contre, hein?
Ah ben là, oui, c'est sûr. Oui, parce que le sommeil, on sait aussi que c'est un autre facteur qui est fondamental, parce que durant le sommeil, on fait le ménage.
Oui.
On classe des affaires, puis on en rejette d'autres qui servent à rien. Puis sur le plan physiologique, le sommeil sert aussi à limiter les dommages cérébraux, puis à réparer nos neurones. Alors, c'est important de bien dormir aussi. Puis aussi, avec le vieillissement, il y a plein de maladies associées au sommeil qu'on connaît bien et qui ont besoin d'attention.
Puis le meilleur conseil que vous pourriez donner aux gens pour bien vieillir?
Rester actif dans sa tête et dans son corps. Mais rester actif dans sa tête, pas avoir peur de se donner des défis, pas avoir peur d'apprendre quelque chose de nouveau aussi. Tu sais, pas avoir peur de réaliser ses rêves, même si on va pas au bout de notre rêve. Pas avoir peur de commencer, mettre au moins un peu... tu sais, tu voulais apprendre, je sais pas, l'italien, ben t'es pas obligé d'être parfaitement bilingue, là, mais tu peux commencer à apprendre cette langue-là. De pas avoir peur de commencer à faire à manger, même si on a passé notre vie à courir puis on n'a pas fait à manger. Pas avoir peur de ça. Pas avoir peur des défis nouveaux.
Alors, rester actif intellectuellement, rester actif physiquement, avoir des bonnes habitudes de vie, rester en relation avec les gens, avoir du plaisir, puis respecter ses limites, hein, être capable de sans être complaisant, d'être auto-indulgent pour prendre soin de soi aussi quand il faut. Donc, ça fait partie des conseils que vous donneriez tous les deux, je pense, pour
Absolument.
Que la vie soit belle puis pour qu'elle soit profitable.
Déjouer nos gènes.
Merci beaucoup à vous deux. Monsieur Bernaquet, ça a été un plaisir de
Moi
vous
aussi,
rencontrer. Vraiment très inspirant parcours. Docteur Rouleau, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir.
C'était très agréable pour moi avec un invité comme Monsieur Bernaquet. On a le goût d'aller courir tout de suite.
Ça réconcilie avec le vieillissement, bien honnêtement.
Il a l'air de... vous faites tellement pas votre âge. C'est vraiment, là, ça donne le goût de se tenir en forme, là.
Ah oui,
vraiment,
il faut se tenir en forme, c'est comme ça. Puis on va être positif.
Vous êtes un modèle.
La vie est belle.
Merci beaucoup à vous deux.
Merci beaucoup.